pour les chants. C'est bon. Je ne sais pas si ça vaut la peine le message après, mais c'est bon, les chants. Alors, oui, ça vaut la peine. On va étudier la parole de Dieu ensemble. C'est bon d'être parmi vous. J'aimerais demander à Dieu qu'il nous dirige, qu'il nous aide à apprendre qu'est-ce qu'il a à nous montrer. Père Céleste, merci que tu es parmi nous. Je te prie pour ceux qui regardent par Internet aussi et je te prie pour ceux qui ne peuvent pas participer de quelque manière, soit qu'ils ne veulent pas ou qu'ils sont empêchés. Et Père, aide-nous à apprendre de ta parole, à la mettre en pratique, pas se borner à l'écouter. Merci des prières qui sont montées vers toi tantôt. Merci du cœur des gens que tu es bien disposé à venir au salut et à t'aimer, à t'adorer, à te servir. Continue, Père, à nous édifier jusqu'au jour où ton Fils viendra nous chercher ou bien si on s'en va au ciel avant par la mort qui vient nous chercher dans le tombeau. Gloire à toi, Père, au nom de ton Fils que je te prie. Amen. Alors, juste pour vous dire, il y a de l'espoir. On va terminer Romains un jour. Alors, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. À vrai dire, je vais essayer de faire quelque chose d'inusité. Je vais couvrir deux chapitres la prochaine fois parce que 15 et 16, c'est beaucoup des chapitres de Paul qui parle à ses amis. Et il y a des leçons à apprendre dedans. Mais c'est moins dense que la balance, alors on va couvrir deux chapitres la prochaine fois. Puis j'aimerais aller dans une autre épître qui est pas mal différente, qui serait l'épître de Jacques. Et Jacques, c'est, on va voir, Romains, c'est la doctrine, puis Jacques, c'est doctrine en action. Il nous enseigne rien de nouveau, sauf nous montrer qu'est-ce que ça veut dire de vivre comme un chrétien. Alors, si on revient où on était en Romains, aujourd'hui, ça va être comment vivre comme un chrétien qui aime un autre chrétien, qui l'aime vraiment. C'est quoi aimer vraiment? OK? Alors, on va regarder Romains 14. Mais avant d'arriver là, j'aimerais récapituler, je le fais tout le temps parce que quand on vieillit, notre mémoire n'est pas bonne, donc il faut qu'on se rappelle de ce qu'on a entendu. Puis, au début de Romains, il dit, je suis Paul, je ne vous ai pas vu, je veux vous voir, mais j'ai des choses à vous dire à l'église qui est à Rome. Et là, il commence un exposé sur le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire le juste vivra par la foi? Alors, il dit, tout le monde est pécheur, parce que les juifs, ils se pensaient pas mal bon. Et les païens, ils ne savaient pas trop. Mais ils ne savaient pas s'ils arrivaient où étaient les Juifs. Alors, il dit, on n'est tous pas bons. On a tous manqué le coup. On a tous refusé le Seigneur. On a tous refusé qu'est-ce qui est dans sa nature. On est tous condamnés. Mais, Romains 3, Dieu a donné Jésus-Christ comme victime propitiatoire, victime pour nous rendre propices, pour nous rendre acceptables à Dieu. Et là, il va passer à travers ce que ça veut dire d'être acceptable à Dieu. Et ça culmine, j'aime beaucoup là-dedans, Romains 8, que Romains 8 nous dit qu'on est fils de Dieu, on est co-héritier de Dieu, salut est certain, toutes choses vont concourir au bien, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. On dit « wow ». OK? Romains 8, c'est comme accepter une offre d'emploi pour un salaire qu'on ne s'attendait pas. C'est fantastique. M'en vais avoir la job, j'ai gagné, je ne sais pas le prix, je vais dire j'ai gagné 5$ pour ne pas énerver le monde, j'ai gagné 5$ par jour, et là, quelqu'un m'offre 15$ par jour. Ah, j'ai quelque chose. J'ai triplé mon salaire, j'y vais très heureux. Là, on dit, ouais, mais il faut savoir qu'il y a des responsabilités dans ça. Alors, c'est pas que tu n'auras pas ton salaire, mais tu as des responsabilités dans ça. Et quand on va parler de Jacques, on va parler beaucoup des responsabilités. Mais en Romains, il nous dit, c'est quoi qui est fantastique? Romains 8, si vous pouvez lire Romains 8 sans être excité, c'est parce que vous êtes endormi, parce que c'est fantastique quand même. Okay? Et à la fin de Romains 8, il parle de ses frères, les Juifs, qui ont refusé, et il dit, moi, il dit, ils ne savent pas ce qui manque, il dit, moi, je serais prêt à aller à l'enfer pour qu'ils puissent accepter le Seigneur. Quel amour qu'il y avait pour les personnes autour. Puis Romains 9, 10, 11, ça parle des Juifs et comment ça va revenir, etc. Et verset 12, il cesse de parler de tout ce qui est doctrine, tout ce qui est « Wow, vous êtes sauvés, pauvres Juifs ne sont pas sauvés. » Et là, Romains 12, 13, 14, 15, 16, il dit « Voici le « so what ». Voici qu'est-ce qui est bien important pour moi avant que j'arrête d'écrire quand je vous parle. » Alors, on voit Romains 12, qu'est-ce qu'il dit? Romains 12, 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frère. » Ça relie à tout ce qu'il avait dit avant. « Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à être religieux. » C'est pas ça qu'il dit? « Je vous exhorte donc, frère, à rester chez vous et laisser le Seigneur agir. » Non. Qu'est-ce qu'il dit? « Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. » C'est la compassion de Dieu qui fait qu'on est ici ce matin et qu'on n'est pas à l'enfer déjà. Parce que Dieu veut qu'aucun périsse, mais que tout arrive à la repentance. Alors, il nous a tirés et on est là. Donc, il dit « à offrir vos corps ». Non, corps, c'est la partie qu'on touche. C'est la partie qui se brûle, c'est la partie qui se touche, qui sent, qui voit. Nos corps et qui agit comme un sacrifice vivant. Un sacrifice, qu'est-ce que ça faisait un sacrifice? Quand on offrait un sacrifice, qu'est-ce qui est arrivé à l'agneau ou l'animal ou autre qui était offert en sacrifice? Il meurt pour plaire à Dieu. Mais là, il dit, vous êtes un sacrifice vivant. Tant mieux, parce qu'il n'y a pas de suicide ici ce matin pour plaire à Dieu. OK? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, qu'est-ce qui rend agréable à Dieu? C'est d'être saint. OK? Alors, Jésus nous a rendus agréables en Dieu en prenant le péché. Mais nous, pour être les amis de Dieu, Christ a dit quoi? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé. OK? Donc, saint, agréable à Dieu, ce qui est très déraisonnable. Non, c'est pas ça qu'il dit. Ce qui est un culte raisonnable. Puis si tu ne fais pas ça, si je ne fais pas ça, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Imaginez que je me noyais et que quelqu'un vient me chercher, me sort de l'eau, et après que tout est réglé, je ne vire même pas de bord pour dire merci. On dirait que tu as le cœur pas mal froid, hein? Mais Seigneur, il a transformé nos cœurs par le Saint-Esprit, alors le cœur ne devrait pas être froid. Si c'est déraisonnable, c'est qu'on n'appartient pas au Seigneur. OK? C'est très simple. Alors, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, puis il dit, ne vous conformez pas au monde. Et il ne parle pas d'aller être un ermite quelque part dans une caverne. Il dit, soyez pas comme les autres, soyez différents. Paul y en parle, Pierre en parle, Jean y en parle. Il faut qu'on soit des personnes qui sont tellement différentes qu'on a l'air des ambassadeurs, on a l'air de quelqu'un venu d'un autre pays, parce qu'on vient d'un autre pays. On vient du pays du royaume de Dieu, exactement, madame. On vient du pays du royaume de Dieu. Alors, il faut que, malgré que mon extérieur a l'air d'un gars blanc de 63 ans, OK, pour que mes actions soient telles que je ne sois pas vu comme un bon gars, mais comme un serviteur de Dieu. Si c'est un bon gars, c'est moi. Si c'est un serviteur de Dieu, il n'aime peut-être pas mon Dieu, mais il ne peut pas dire que mon Dieu ne m'a pas changé. Il y a la même chose pour vous. Donc, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir le renouvellement de l'intelligence. Le mot-là, c'était métanoïa. C'était une transformation. C'était la larve qui devient papillon. Une transformation complète. Un chrétien doit être transformé. Alors,
Là, il donne quelques exemples là, à la fin de son livre, parce qu'il n'a pas écrit toute une Bible. Il a écrit quand même un grand livre que nous avons divisé en 16 chapitres. Alors, Romains 12, il donne plusieurs exemples de comment vivre ensemble en harmonie. Romains 13, il adresse, on a regardé la dernière fois, il adresse comment qu'un chrétien doit répondre à l'autorité. L'autorité, n'oubliez pas qu'il y avait Néron qui était le boss dans le temps, il y avait Caligula le fou, puis il y en avait d'autres qui étaient là. C'était, si on pense qu'on a un problème avec quelques personnes autour de nous, Néron et Caligula étaient pires que Poutine. Okay? Ils n'avaient pas l'arme nucléaire, mais ils étaient encore plus flyés que lui. Alors, c'était très grave de vivre sous eux. Il dit, il faut que vous les honorez. Résistez lorsqu'ils vous font faire des choses qui ne sont pas correctes. Mais sinon, fermez la bouche, puis soyez des bons citoyens. Bon, c'est pas facile. OK? Alors, il a pris la peine. Donc, sujet 1, c'était soyez transformés. Et dans la transformation, voici ce qui doit en sortir. Un, vivez bien ensemble. Ça, c'était Romains 12. Romains 13, c'est chialez pas contre Trudeau, que vous l'aimez ou non. C'est ça que c'est dit. OK? C'est écrit dans la Bible. Le mot Justin est là-dedans. Non, c'est pas vrai. Mais l'ensemble est là. Et je ne peux pas vous dire que je ne veux pas sortir ma politique. Je ne suis pas en train de prêcher pour lui ou contre lui. Je suis en train de dire que notre liberté et nos droits sont limités par le fait que le ciel et l'enfer sont très réels. Et si quelqu'un va à l'enfer, parce que j'aurais pu l'attirer vers Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est? C'est la pire des choses qui peut arriver. Alors, Romains 14, il tombe dans quelque chose d'autre. Et on va le lire ensemble. Il parle des personnes qui sont faibles dans la foi. Les personnes, voyez-vous, la Bible, il y a des choses que la Bible dit qu'il faut qu'on fasse et des choses qui sont péchées. OK? Est-ce que tu es quelqu'un et c'est péché? Pensez? Est-ce que tuer quelqu'un, c'est un péché? Le meurtre, c'est un péché. Oui. Est-ce que le mensonge, c'est un péché? Oui. Est-ce que l'adultère, c'est un péché? OK? Alors, je pourrais continuer à nommer tous les 10 commandements et la plupart de ce qui est dans les Lévitiques, etc., et on dirait que c'est des péchés. Mais il y a des choses que nous, on croit sont des zones grises. Et ici, il va parler des zones grises. Et à la fin du chapitre, le dernier verset, je donne déjà la fin au cas où vous voulez partir tôt. À la fin du chapitre, il dit « il n'y a pas de zone grise ». Et il nous donne une règle, merci, excusez-moi, je suis anglophone. Il nous donne une règle pour dire « voici comment trier des choses qui sont grises ». OK? Alors, on va regarder ça ensemble, mais avant de regarder, j'aimerais que quelqu'un d'entre vous levez la main si vous avez le droit. 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7. Quelqu'un qui dit « je suis prêt à le lire », si vous pouvez juste lever la main. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Oui, madame, c'est beau. Et quelqu'un d'autre, Jacques, chapitre 3, les versets 13 à 18. Quelqu'un qui pourrait prendre Jacques 3, 13 à 18. Pas tous ensemble en même temps. Là. Oui, une autre madame. Parfait. OK. Alors, si vous voulez lire 1 Corinthiens 8 d'abord. 1 Corinthiens 13 d'abord, pardon. Excuse-moi. Merci beaucoup. Et là où ça dit la charité, le mot pourrait être aussi l'amour. OK? Maintenant, quand Christ a dit, voici les deux plus grands commandements, parce qu'est-ce qu'elle lui a dit, c'est quoi le plus grand commandement? Et sans doute qu'il s'attendait à ce qu'il dise, garder la loi. Mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Il dit, le plus grand commandement, c'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, tout ton cœur et toute ta pensée. Et le deuxième, c'est comme celui-là. Et dans le monde autour de nous, on connaît le deuxième, puis on ne veut pas savoir, rien savoir du premier. Mais le deuxième ne fonctionne pas si le premier n'est pas obéi. Deuxième, c'est, tu aimeras le prochain comme toi-même. Et parce qu'on a tous les deux failli, on a failli à tous ces deux commandements, on est pécheur et on a besoin du salut. Les deux commandements restent pareils. Et comment je sais que j'aime le Seigneur? Je fais ce qu'il me demande. Ça, c'est l'amour. Comment que je sais que j'aime les autres comme moi-même? C'est que je fais à peu près toutes les choses et je suis comme toutes les choses que vous venez de lire en 1 Corinthiens 13, où l'amour, c'est pas juste que je vous aime. On se voit, on a des accolades, on se sent bien ensemble. L'amour, c'est énormément plus que ça. L'amour, c'est se mettre dans la peau de l'autre pour que l'autre soit, la Bible parle d'édifié. Vous savez ce que ça veut dire, édifier? Édifier, c'est comme construire un bâtiment. Hier, notre fille a une maison, puis son voisin voulait une clôture. Alors, ça coûte cher, une clôture. Ils se sont dit, ils étaient d'accord sur les matériaux. Et hier, son voisin et moi, on a édifié une clôture. On a monté une clôture. OK? Alors, c'est l'édification. Il n'y avait pas de clôture avant. Maintenant, il y a une clôture. L'édification de la clôture. Quelqu'un qui aime son prochain fait en sorte que son prochain est mieux la semaine prochaine et le mois prochain et le mois prochain qu'ils étaient aujourd'hui parce que j'ai contribué à leur bien. Ça, c'est l'édification. OK? Alors, ça, c'est 1 Corinthiens nous parle des caractéristiques de l'amour et chaque fois que je le lis, je réalise que souvent, c'est l'affaire de soupçonner le mal. J'ai été en affaires assez longtemps et il y a tellement de monde croche que j'ai la misère à écouter quelqu'un et le croire sans voir s'il y a de quoi derrière qui n'est peut-être pas correct. Malheureusement, la plupart du temps, il y a de quoi derrière qui n'est pas correct. Mais c'est quelque chose qui est dur pour moi et je dois le Seigneur, je dois ne pas soupçonner le mal. Je dois être sage comme un serpent, comme on dit. OK, mais je ne dois pas soupçonner le mal. Il faut être amoureux. Et donc, j'espère qu'avant de mourir, que ça va être arrivé. Mais c'est quelque chose sur lequel je travaille. 1 Corinthiens, donc, nous dit, c'est quoi l'amour? Maintenant, l'autre passage, c'est Jacques. Et Jacques, c'est un autre passage. Je vais vous laisser lire et puis on va en parler. Jacques, juste pour pas que je dise des choses pas correctes. Jacques, chapitre 3, les versets 13 à 18. Merci. Alors, là, ce qu'il parle, et on va voir ici de ça, c'est les personnes qui sont hargneux pour avoir raison dans des discussions autour de leur foi ou autour de la doctrine ou autour de quelque chose. Ils deviennent hargneux, ils deviennent méchants. J'ai raison, t'as tort. Moi, je suis amillénialiste, toi, tu es pré-millénialiste, et j'ai raison et t'as tort. Quand tu arrives là-dedans, c'est pas une question de péché. La Bible dit que ce genre de conflit, c'est quoi? Il est très fort là-dessus. Il dit, c'est terrestre, charnel et diabolique. Pourquoi? Parce que ça détruit l'œuvre de Dieu. Ça détruit l'œuvre de Dieu. Alors, là où il y a un zèle amer, avoir du zèle, c'est fantastique. Avoir un zèle amer, c'est péché. Parce qu'on ne peut pas avoir une bonne source et une mauvaise source. Maintenant, on ne parle pas de tolérer le péché. On parle des choses qui ne sont pas péchées où on se chicane pour avoir raison. Et quand je me chicane pour avoir raison, surtout des choses que la Bible pourrait être interprétée de plusieurs façons, qu'est-ce que je suis en train de faire? Détruire l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit que maintenant on voit comme dans un miroir. C'est un peu foncé. Un jour, on va connaître comment on était connu. Alors, on a toute éternité pour connaître. Alors, je n'ai pas besoin de me prendre pour un autre et essayer de savoir toute la pensée de Dieu. J'ai assez ici dans la Bible pour ma pensée, pour durer pour ma vie. Et vous aussi. OK? Alors, Romains 14. Tout ça, c'était le début, pour ne pas rentrer dans le chapitre. Mais non, pas vrai. On y va. Romains 14. Verset 1 à 9. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Et vous allez dire, c'est quoi ça, des végétariens et tout? Je vais vous expliquer l'arrière-plan culturel de ça, vous allez comprendre. OK? J'aime ça qu'il y ait des végétariens. Ça me laisse plus de viande à manger. C'est correct. OK. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. C'est pas vrai. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout et s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il a vécu afin de dominer sur les morts et les vivants. Bon, il y a beaucoup là-dedans. L'arrière-plan de la plupart de cette chose-là, c'est parce qu'il y avait des Romains et des Juifs là-dedans. Et on avait l'habitude chez les Romains, quand on amenait des animaux à la boucherie, okay, tous les animaux qui venaient à la boucherie, ce n'était pas un animal comme un juif qui allait au temple. Tous les animaux qui venaient à la boucherie, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils les rendaient comme halal, mais halal pour des démons. Okay? Donc, c'était offert avec des incantations, puis là, on tranchait la gorge. Alors, finalement, toute la viande qui venait dans le marché était la viande que quelqu'un avait offert aux démons avant de le trancher en steak et de vendre. OK? C'est pas compliqué, c'est ça. Ce qu'il y avait, c'était une coutume qu'on allait l'offrir au démon, et c'est pas qu'il l'amenait au temple pour le faire, c'était juste comme une incantation qu'on faisait, comme le signe de la croix que du monde fait ou autre chose, c'était une habitude que le monde faisait. Maintenant, il y avait des personnes qui étaient des juifs, et eux, ça ne les dérangeait pas trop. Ils n'avaient jamais été du côté des démons. Même s'ils n'étaient pas au Seigneur, ils n'avaient jamais été des adorateurs de ça. Donc, pourquoi je ne mangerais pas cette viande-là? C'est la bonne viande. Il y avait des personnes qui étaient des Romains et des païens. Et eux, Il venait d'un milieu où le monde adorait les démons. Et quand ils sont venus adorer le Seigneur, ils ont dit, c'est terrible, je ne peux pas prendre ça. Qui avait raison? Les deux. Mais il y a un Dieu. Comment les deux peuvent avoir raison? Et c'est pour ça qu'il parle ici. Et on va prendre ça comme étant abstrait, mais je vous dirais que ça arrive dans tous les jours, des choses que le monde fait. Je vous ai parlé d'eschatologie où le monde parle des choses de théologie. Je ne suis pas d'accord pour ça, je ne suis pas d'accord pour ça, puis on se chicane. Mais, et dans l'ancien, dans le Moyen-Âge, apparemment, il y a une grosse chicane entre théologiens. C'est combien d'anges pouvaient danser sur la tête d'une épingle? C'est, quand on veut avoir la Bible parle de la connaissance ample et l'amour édifie, mais la connaissance ample. J'ai mon doctorat en théologie, donc j'ai étudié et je sais que. Ferme ta bouche, c'est rien comparé au Seigneur. OK? Mais on a des choses plus près de nous. Quand je grandissais au Niger, mes parents étaient missionnaires au Niger, parmi les errements, on ne sifflait pas. Pourquoi? Parce que siffler supposément attirait des mauvais esprits. Moi, j'aime siffler. Puis je ne suis pas pire, je ne suis pas Roger Whittaker, mais je siffle assez bien. OK? Puis ce n'est pas pour me vanter, c'est juste que j'aime siffler. OK? Alors, comme enfant, je n'y ai pas pensé. Et ma mère m'a dit, Marc, il faut que tu arrêtes. Donc, dans mon enfance, quand on était parmi les errements, je ne sifflais pas. OK? Pourquoi? Parce que c'était un péché. Ça l'aurait été si j'avais causé. Faites en sorte que quelqu'un d'autre pêche. Vous comprenez? On avait eu des missionnaires qui étaient venus au Niger, qui venaient de l'Éthiopie. Et eux, à Noël, ils avaient eu un arbre de Noël. Premier, parce que beaucoup de missionnaires n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais eux, ils avaient réussi à trouver des décorations, donc ils avaient pu se faire un arbre de Noël. Et un chrétien éthiopien est venu chez eux assez scandalisé. Il dit, vous adorez des arbres. Nous, on a cessé d'adorer des arbres lorsqu'on a accepté le Seigneur. Donc, ce couple-là n'a jamais eu d'arbre de Noël par la suite, même quand ils ont quitté l'Éthiopie. Okay? Malheureusement, quand ils sont venus au Niger, ils étaient pas mal frustrés que d'autres missionnaires au Niger, où ça n'affectait pas du tout, avaient des arbres de Noël. Donc, ils commençaient à faire la zizanie parce que vous avez des arbres de Noël. Ça ne va pas bien. Un côté, ils ont bien fait. L'autre côté, ils ont mal fait. OK? On a des choses de nos jours. La Bible dit qu'il ne faut pas se saouler. Absolument. Quelqu'un qui se saoule, c'est contre la parole de Dieu. Point final. La Bible ne dit pas qu'il ne faut pas boire, malgré que notre famille n'en prend pas d'alcool pour d'autres raisons. Même que Paul, à un moment donné, avait dit à Timothée, de façon médicinale, de prendre l'alcool, parce qu'il y avait des problèmes de digestion. Mais ça peut causer des frictions. Quand on va chez quelqu'un, puis il nous offre une bouteille de vin, puis nous, on dit on ne boit pas. La plupart sont gracieux et c'est bien. Mais ça peut causer des frictions. Puis récemment, on a eu le COVID. Et puis, il y a eu des masques et pas de masques. Bon, quand le gouvernement, il y a des principes ici. Le gouvernement dit, portez des masques. Le principe-là, c'est tu obéis au gouvernement. Ça, il n'y a pas de problème. Si tu n'obéis pas, on a un problème, on est rendu 1 Corinthiens 13 qui dit « tu obéis ». Oui, mais c'est stupide. Pas grave, tu obéis. Je vais aller sur l'avion mardi. J'ai tout un périple en Australie, en Thaïlande. OK? Les avions canadiens, quand ils quittent ici, tu portes un masque. Rendu aux États-Unis, tu ne portes pas de masque. Rendu entre l'Australie et Thaïlande, je portais un masque. Entre Thaïlande et Japon, je portais un masque. Entre Japon et le Canada, je portais un masque. Un, c'est parce que le Canada et Thaïlande, ils portent des masques, et les États-Unis, ils n'en portent plus. Je peux dire que c'est stupide, mais je me conforme parce que j'obéis à la loi. Mais maintenant, ça arrive plus proche entre des chrétiens. J'ai eu une personne qui voulait venir chez nous. Et puis la personne est assez anxieuse. Je la connais bien. C'est une superbe personne. Elle est assez anxieuse. Puis elle voulait venir chez nous. C'était au début de COVID. Est-ce qu'on peut porter des masques quand on vient chez vous? Oui. Est-ce que vous pouvez prendre des tests rapides de COVID avant qu'on arrive? Oui. Oui. Est-ce qu'on pourrait aller s'asseoir dehors au lieu d'être dans la maison? C'était au mois de novembre. On était dehors. Il faisait froid. Il faisait froid. OK? Cette personne-là, j'aurais péché de ne pas agir de même avec elle. Vous allez dire, Marc, la personne est déraisonnée. Oui, son mari est un médecin, même. OK? Mais elle est anxieuse. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'aimer. Je dois l'aimer. Son mari qui est médecin, qu'est-ce qu'il fait? Chérie, t'es déraisonnable? Non, il l'aime. Et c'est de ça qu'on parle ici. C'est d'aimer les personnes. Maintenant, il y a une tyrannie des faibles. Il y a des personnes qui peuvent se dire « je suis faible » parce qu'ils aiment contrôler le monde. Ça aussi, c'est un péché. Okay? Il y a des personnes qui utilisent beaucoup de ça de nos jours. Je suis victime. I'm triggered. Vous m'avez affecté tel compte. Non, tu t'es mis en colère. Ça n'a rien à faire avec le fait que je t'ai offensé. C'est parce que tu t'es mis en colère. Alors, il y a un peu de sagesse qui est requis là-dedans pour pas que on, tu sais, qu'on marche sur des œufs. Mais tout ça vient au passage. Alors, quand il parle au verset 2, je prends beaucoup de temps là, « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, bon végétarien, mais pourquoi à cause des idoles? » Il dit, « Juifs et païens, ne vous méprisez pas, car Dieu l'a accueilli. Dieu vous a accueilli tous les deux. » Alors, l'un n'a pas plus raison que l'autre. Puis il dit, « Qui es-toi qui juge un serviteur d'autrui? » On est tous des serviteurs de Dieu. OK? Si ma position eschatologique n'est pas la même que la vôtre, est-ce que je dois vous mettre à part dans un camp et moi dans un autre camp? Pas bibliquement, on est tous des serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs, verset 9 du chapitre dit que Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et les vivants. Pourquoi? Donc, il dit, c'est lui qui domine, c'est lui qui est le boss. Puis lui, il dit, arrêtez de vous chicaner les enfants. Pas mal ça que c'est en train de dire. Quand les parents disent à leurs enfants, arrêtez de vous chicaner, c'est pour qu'il y ait de la paix dans la maison. Et c'est qui le boss? Les enfants qui se chicanent ou les parents qui disent arrêtez? Les parents, à cause, pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont des parents. Ils sont dans la position d'autorité. Maintenant, quand les parents se chicanent, ça, c'est l'autre chose. Ça, c'est bien plus grave, parce que ça divise la famille. Mais restons ici. Dieu ne se chicane pas. Les trois sont ensemble. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Alors, il dit, il fait une distinction entre les jours. Les autres estiment tous égaux. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient toutes des célébrations. Ce jour-ci, c'est ça. Ce jour-ci, c'est ça. Ce jour-ci, c'est ça. Ce jour-ci, c'est ça. Il les peint, il les regarde et il dit, vous êtes fous? Pourquoi célébrer ces jours-là? Alors, un côté, c'est les païens qui étaient faibles parce qu'ils ne voulaient pas manger la viande. Et les Juifs disaient, ben, moi, j'aime ça du steak. Et l'autre côté, les Juifs étaient faibles parce qu'ils devaient célébrer tel jour, tel jour, tel jour. Puis même s'ils n'étaient plus sous la loi, le sabbat, ils ne marchaient pas plus que X parce qu'ils avaient grandi là-dedans. Ma mère a grandi dans l'église presbytérienne dans le temps où c'était très strict. avant que ses parents connaissent le Seigneur, mais les habitudes sont restées. Ma mère, quand on grandissait, puis mon père ne disait rien, il tolérait, il disait rien. Mais ma mère, le dimanche, pas de sport, pas d'activité, c'est le jour de repos. Si tu lisais quelque chose, c'était soit un livre chrétien ou la Bible. Ça, c'était ma mère, pendant qu'on grandissait. Très, très, très strict, beaucoup plus strict que la Bible l'exige. Et mon père n'était pas en train de lui dire, chérie, la Bible ne dit pas ça. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Maintenant, elle ne nous a jamais chicanés quand plus tard, quand on grandissait. Et puis elle reconnaissait, elle dit, c'est comme ça que j'ai été élevé, puis c'est comme ça que je vis, puis c'est pour ça que je vous ai fait faire ces choses. OK? Elle ne gagnait pas son ciel, c'est une habitude. Mais la même chose ici. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui mange. Il rend grâce à Dieu. En effet, puis là, il y a des passages clés. Verset 7, c'est un passage clé. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. C'est-à-dire, c'est quoi? On est une société. On est une société. Et une société, c'est un groupement de personnes imparfaites qui attendent le ciel ou l'enfer. La plupart de vous, j'espère tous entre vous aujourd'hui, attendent le ciel. Mais on est des imparfaits, on est des pécheurs. Et on vit chacun dans un milieu avec des arrière-plans différents. Il y en a qui ont été battus par des parents ou qui ont été maltraités et que quelqu'un lève le ton un tout petit peu, ça les dérange énormément. Ou ils viennent d'une culture comme un Thaïlandais qui ne va jamais lever la voix parce qu'un bouddhiste ne lève pas la voix. Okay? Ou bien ils viennent d'une culture comme en Allemagne où on se chicane tout le temps puis ensuite on s'en va en chum faire quelque chose ensemble. C'est des cultures, là. Puis on est tous différents. Mais on ne vit pas pour soi. On vit l'un et l'autre. Et il dit, ici, il dit, si tu as quelque chose à faire, pense à l'autre. Vis pour l'autre. C'est ce que tu es en train de vivre ici. En effet, nul ne vit pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Alors, c'est quoi qui est important? C'est quoi qui est important? Mes droits, n'est-ce pas? J'ai les droits. Charte des droits et libertés canadiens. J'ai les droits. Je suis citoyen américain. J'ai tout le Bill of Rights. Je peux tomber là-dessus aussi. J'ai deux citoyennetés. Je peux m'amuser à cœur joie à dire j'ai des droits. Pas vraiment. Mon droit que j'ai devant le Seigneur, c'est quoi? Je suis fils de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ et je dois être son ambassadeur. Et les seuls droits que j'ai inhérents, c'est le droit d'aller à l'enfer dont il m'a racheté. Je n'ai pas d'autre droit. OK? Alors, si je suis serviteur de Dieu, la Bible dit que le serviteur, il fait ce que son maître lui demande. Donc, si nous vivons, si nous mourons, c'est pour le Seigneur. Je ne sais pas vos points de vue eschatologiques, je vous pointe juste parce que vous êtes là à droite, mais ils sont peut-être les mêmes que nous ou non. Mais s'ils sont différents, et on part une chicane à l'église, ou une chicane entre nous, ou peu importe, qu'est-ce que je suis en train de faire? Désobéir à celui qui est mon boss. Et vous aussi, si vous vous engagez dans la chicane. Pourquoi? Parce qu'on vit pour le Seigneur. On vit ensemble. Alors, ce que j'aime de Romains 14, il est clair, mais en même temps, c'est le choix des sujets. Paul, quand il parle de toute cette doctrine, c'est un choix de sujet pour dire vous êtes transformés. C'est-à-dire, il y a des choses bien importantes. Romains 12, comment on vit ensemble. Romains 13, comment on se rapporte aux autorités. Et Romains 14, comment on vit ensemble lorsqu'on a des différences d'opinion qui ne sont pas basées sur du péché, mais sur des différences d'opinion. Puis, verset 10. Wow, je vais aller vite. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Excuse-moi. Car il est écrit, je suis vivant du Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu. Et ainsi, chacun de vous, de nous, rendra compte à Dieu pour lui-même. Maintenant, dans la Bible, il y a deux tribunaux. Il y a un tribunal auquel ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ ne participeront pas. Et c'est le tribunal des personnes qui sont déjà condamnées. Parce que vous savez, on est tous condamnés. Puis il y en a certains qui sont rachetés. Alors, ce tribunal-là, ce n'est pas le tribunal de dire que tu es coupable parce que tu l'es. Okay? Ce tribunal-là, c'est dire parce que tu n'as pas accepté mon fils Jésus-Christ et son sacrifice, voici ta condamnation. Alors, vous savez que lorsqu'on paraît en cours, ça peut arriver en même temps, mais souvent, quand c'est des cas de meurtre ou autre chose, des choses assez graves, sur une cour sur terre, on va en cours d'abord pour voir si on est coupable ou non. Puis là, on retourne en cours pour avoir la sentence. Alors, ce tribunal-là, qu'on appelle le grand trône blanc, qu'on trouve en Apocalypse, c'est Apocalypse 20, 11 à 15, c'est le tribunal de condamnation devant le grand trône blanc pour ceux dont leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Mais chacun de nous, notre jour en cours s'en vient. Pas même cours. On va passer un à un devant le Dieu Tout-Puissant. Un à un devant le Dieu Tout-Puissant. Et ce n'est pas mon épouse qui va être là avec moi qu'on est jugé comme couple. C'est moi. Et c'est vous. Maintenant, les flammes de l'enfer sont plus là. Ça, c'est passé en revue. La Bible l'appelle le bema. Le mot grec, c'est le bema. C'était le mot qu'on utilisait pour des athlètes qui faisaient la gymnastique ou faisaient autre chose aux Olympiques, qui passaient devant le bema pour évaluer leur performance. Et pour chacun de nous, on va être évalué sur notre vie. Et Paul, il disait, il parlait des couronnes, il voulait bien paraître devant la cour de Christ. Mais vous savez, qu'on soit Billy Graham, ou Nate Saint, ou Martin Luther, ou Monsieur et Madame Tout-le-Monde, on n'est pas jugé sur les autres, on est jugé sur quoi? Rappelez-vous la parabole des talents qui étaient donnés? 5 talents, 2 talents, 1 talent. Est-ce qu'il a dit aux 2 talents qu'il avait fait moins bien que les 5 talents parce qu'il y avait juste 2 talents puis il en a rapporté 2? Non, il était moins capable. Donc, il a donné moins à faire puis il a rapporté moins. Donc, le fait qu'on n'ait pas un doctorat ne veut pas dire qu'on aura moins de récompenses. Mais ce qui arrive, c'est que celui qui avait donné 1 talent, pourquoi qu'il a été puni? Parce qu'il n'a rien fait, exactement. Il n'a rien fait. Il était paresseux, il a passé sa vie à rien faire. Et il dit, mon talent, je l'ai caché parce que toi, tu es méchant et j'avais peur. Vous savez, on a beaucoup de chrétiens, on peut se regarder dans le miroir et dire, est-ce que je suis celui dont mon talent est caché, dans le sens, pas talent dans le sens d'être talentueux, mais les choses qu'il m'a donné à faire, est-ce que je l'ai fait? Ou est-ce que je suis comme Monsieur Tout-le-Monde, j'ai aucune influence autour de moi pour le ciel, et je suis tellement heureux que j'ai attrapé une bouée de sauvetage et que je sais que je ne vais pas à l'enfer, que je vais me rendre devant le ciel et le Seigneur, je suis là, je suis heureux, j'ai la bouée. But just too bad, ça va aller très mal dans ce jour-là. On n'ira pas à l'enfer. Mais quand la Bible dit qu'il essuie toutes les larmes des yeux, moi je crois qu'il va avoir des larmes. Je ne peux pas m'imaginer que quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui se tient devant lui et qui voit les marques dans les mains et les pieds, les seules marques au ciel qui viennent de la terre, sont les marques sur le corps de Jésus. Et on va les voir. On va voir ces marques de crucifixion. Et on sait qu'ils sont là parce que son corps glorifié, c'était un corps que Thomas pouvait voir les marques. Comment qu'on peut se tenir devant lui et dire, Seigneur, je suis heureux d'être un chrétien. C'est bien important. Le tribunal s'en vient. Pas pour avoir peur du tribunal, pour être prêt pour le tribunal. Il y a une différence. L'amour parfait bannit la crainte. Je n'ai pas peur du fait qu'il n'y ait pas de purgatoire. Là. Ça, c'est une invention humaine pour dire que tu vas gagner ton ciel. Je ne peux pas gagner mon ciel. Mon péché est trop grand. Mais est-ce que vous avez déjà eu, je l'ai eu une fois de ma vie où mon père m'avait dit, j'ai honte de toi. Une seule fois. Et je me rappelle cette fois-là plus que toutes les punitions qu'il m'a jamais données. J'ai honte de toi. Je l'ai dit juste une fois. J'avais fait pleurer ma mère. Je ne me rappelle même pas pourquoi je l'avais fait pleurer. J'avais 8-9 ans. Il est venu là. Il m'a dit, Marc, tu as fait pleurer la femme que j'aime. C'est, avant, c'était mes deux parents. Je ne les voyais pas comme la femme que j'aime et l'homme que j'aime. C'était mes deux parents. Okay? Qu'est-ce qui se passait entre eux? C'était un enfant, c'était deux parents. Et là, tu as fait pleurer la femme que j'aime. Il ne m'a même pas puni. Il est viré de bord. Et je me rappelle de ça. Ça fait 50 et quelques années. Je ne veux pas que mon Seigneur dise « j'ai honte de toi ». Même si même, elle ne voulait pas non, ça non plus. Alors, c'est très important. Nous ne nous jugeons plus les uns les autres. Et pensez plus à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'on va tous comparaître devant le tribunal de Christ. Alors, parmi d'autres choses, on va être devant le tribunal de Christ et il faut être prêt. Et s'il dit aujourd'hui, mais Marc, ça fait 20 ans que je suis au Seigneur et je ne pense pas que j'ai accompli grand-chose. Vous savez, l'intérêt sur l'argent, là, comment avoir de l'intérêt sur l'argent? Commencez à épargner un peu. OK? Mais vous n'avez jamais l'intérêt sur l'argent qui n'est pas épargné. Alors, comment avoir des récompenses célestes? C'est à partir d'aujourd'hui. Commencer à vivre pour le Seigneur. Pas plus compliqué que ça. On ne gagne pas son ciel. Mais la Bible parle des récompenses. La Bible parle d'une évaluation. Une évaluation par celui qui sonde les cœurs. Alors, c'est très important. Maintenant, verset 13. Ne jugeons donc plus les uns les autres. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Je suis persuadé, et il faut faire attention au verset 14, le prendre dans son contexte, parce qu'il y a des personnes qui disent, ben tout est pur, donc je peux aller me saouler, ça c'est pur. C'est pas ça. Prenez ça dans le contexte, là. Il dit, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus sur l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Qu'est-ce qu'il voulait dire là? Il dit, il n'est pas en train de dire si tu tues quelqu'un, ce n'est pas grave parce que dans ton opinion, ce n'est pas un meurtre. Okay? C'est ça qu'on verrait si on prend verset 14 comme verset 14. Mais il n'y avait pas de verset quand c'était écrit. Ça faisait partie d'un paragraphe qui était écrit. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est toi le juif, t'invites ton chum païen chez toi. Puis tu donnes un bon rôti. Il doit faire plusieurs choses, lui. Il doit soit accepter de manger pour être bien avec toi, ou te poser la question, es-tu sûr que ça vient d'un boucher qui n'a pas sacrifié aux idoles? Pourquoi donc tu donnes le bon rôti? Pourquoi tu ne fais pas d'autre chose? Tu es capable de faire d'autres choses. Okay? Alors, ne fais pas pécher ton frère. Et lorsque tu donnes le rôti, même si ça t'a coûté 30$ au magasin pour faire le rôti, c'est un péché. Parce que tu l'amènes à une place que tu n'avais pas besoin de l'amener. Okay? Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus sur l'amour. Ne cause pas par ton aliment ou par ton masque ou manque de masque, OK? La perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ou l'eschatologie, ou autre chose. OK? C'est pas ces banalités-là. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ensuite, verset 19, que j'ai manqué, mais ce n'est pas grave. Excuse-moi. Il continue ici, il dit, « Cette foi que tu as, et je vais sauter vers la fin, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même parce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. » Donc, ton païen qui est assis chez toi et il ne veut pas le manger, mais il dit, ben peut-être c'est correct parce que lui est un juif, il va le manger. Peut-être c'est correct, je vais apprendre à le manger. Puis il va contre sa conscience parce qu'elle est troublée. Je l'amène à pécher. Je l'amène à pécher. Il dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et c'est ça la règle là-dedans. La règle là-dedans, c'est, un, si la Bible dit, tu ne le fais pas, c'est péché. Si la Bible dit, tu dois le faire et tu ne le fais pas, c'est péché. Et troisièmement, si la Bible est silencieuse là-dessus, mais il y a un principe d'amour et tu n'es pas capable de régler, de vivre dans ce principe d'amour, tout ce qui n'est pas le produit de conviction est aussi péché. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire comme chrétien? On peut retourner à 1 Corinthiens 13 et dire, voici comment est l'amour. Et si mes actions vers mon prochain arrivent à faire ce que 1 Corinthiens 13, 4 à 7 décrit comme étant l'amour, je peux en paix. Et sinon, ce n'est pas mes droits qui priment. Qu'est-ce qui prime? C'est ma responsabilité envers mon Seigneur. Alors, ce n'est pas d'être pharisien, ce n'est pas d'être plus catholique que le pape, on dirait si on était catholique. Ce n'est pas d'être la société secrète des super saints. Vous savez, nos Allemands, il y avait les SS, mais parmi les chrétiens, il y a aussi la SSSS, Société secrète des super saints. Ce n'est pas de se mettre sur un piédestal, c'est de servir notre Seigneur. Et servir notre Seigneur, ça se fait en amour et en humilité vers les autres. Que Dieu nous bénisse. Merci.